Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
8h47 sur Sud Radio et on arrive avec les grands débats du matin et nos invités, notre éditorialiste Elisabeth Lévy et notre invité Patrick Vignal, député LaREM de l'Hérault. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bien sûr Elisabeth Lévy qui est avec
bonjour,
nous.
Bonjour Elisabeth.
Tout à l'heure, on va tout d'abord revenir, on l'a appris il y a une petite heure maintenant sur ce qui s'est passé du côté de la gare Saint-Lazare à Paris avec ces agents de la sûreté ferroviaire qui ont tiré sur un homme qui les menaçait avec un couteau en criant « Allah Akbar ». Il serait inconnu des services de renseignement. Qu'est-ce que ça vous inspire tout d'abord, Elisabeth Lévy, justement, ce qu'on vient d'apprendre à ce niveau-là, justement?
Écoutez, je sais pas, ça fait... Ce qui m'inspire, c'est la répétition, c'est-à-dire qu'on a l'impression de vivre un jour sans fin, et surtout, ça nous dit quelque chose une fois de plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire simplement à une violence isolée, il y a un terreau, c'est d'ailleurs bien pour ça que le président a voulu faire voter une loi séparatisme, simplement j'ai l'impression qu'une fois qu'on a fait voter la loi... on referme le couvercle et comme d'habitude on nous explique que non, que ce sont des phénomènes isolés, sauf que des dizaines voire des centaines de phénomènes isolés, c'est pas un phénomène isolé, enfin ce ne sont pas des incidents isolés, c'est un phénomène justement, un phénomène social qu'on devrait tout de même prendre en compte, parce que derrière il y a la violence, il y a ce qu'on a appelé le séparatisme, sans en faire grand-chose, franchement.
Patrick Vignal, vous partagez le même avis, finalement, pas d'acte isolé, la répétition, finalement?
Vous savez, je pense qu'effectivement, une société un peu plus violente, les réseaux sociaux, nos gamins voient des décapitations, voient des gens, effectivement, qui sont en train de lyncher les autres, et après, il y a un paquet de débiles et de fous dans la rue. Donc je pense on a un vrai débat.
Attendez,
sur
Elisabeth,
les hôpitaux psy. Je veux dire, aujourd'hui, on a fermé des lits, et je pense qu'il y a vraiment des gens dans les rues qui sont très, très dangereux. On a donné de la fermeté, mais je pense qu'il faut aller plus loin en matière de fermeté avec ces gens. Après, est-ce que derrière, Allah Akbar, c'est une révolution religieuse pour prendre le pari, ou est-ce que ce sont des fous qui, aujourd'hui, sous un prétexte, sont capables de tuer des gens? Vous avez vu, dans ma région, quelqu'un qui décapite sa mère, enfin... Franchement, je suis inquiet pour l'avenir. On a une société qui est de plus en plus violente, où tout peut se dire et tout peut se faire.
Elisabeth, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Ouais, moi, c'est CQFD, c'est-à-dire que vous venez, monsieur le député, de démontrer ce que je dis. C'est-à-dire qu'on a un phénomène, excusez-moi, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas la violence générale. Il y a des expressions de l'islam, si vous voulez, qui sont des expressions radicales, séparatistes, comme je l'ai dit bien avant le président d'ailleurs. On employait ce mot-là donc aux heures depuis fort longtemps. Et qu'est-ce que vous me répondez? Les réseaux sociaux, il y a des fous? Non, il y a aussi des fous, si vous voulez, il y a les réseaux sociaux, mais il y a une violence qui est très particulière, les études maintenant le montrent, alors arrêtons, si vous voulez, de se cacher derrière notre petit doigt et de dire des choses générales pour pas dire le mot islam.
Mais madame,
il y a des expressions radicales de l'islam, si vous voulez, qui sont pas majoritaires, mais qui sont qui concerne à peu près un tiers des musulmans en France, c'est ça que montrent toutes les études du CNRS, de l'Institut Montaigne, et qui concerne la moitié de la jeunesse. Alors jusqu'à quand allez-vous nous dire que c'est la folie et la violence des réseaux sociaux?
Juste avant l'entente de Patrick Vignal, ça veut dire, en gros, si je vous écoute, Elisabeth Lévy, si effectivement il est inconnu des services de renseignement, ça veut dire que la police et les renseignements ont mal fait leur travail à ce niveau-là, c'est ce que vous dites?
On ne peut pas surveiller tout le monde, non, je n'irai pas jusqu'à... excusez-moi, la police ne peut pas sonder les reins et les cœurs, on ne peut pas surveiller tout le monde... donc tant que les gens n'agissent pas ou s'ils vont pas sur des sites tout le temps, si vous voulez, on peut pas non plus vous pouvez pas en reprocher à la police que de laisser passer des gens dans les mailles du filet, sinon on vit dans un état complètement policier. Donc ça non, ça je le dirais pas ça non.
Madame, moi je veux bien, mais alors quelles sont vos propositions? Pour tous ces fous,
excusez-moi, donc en fait vos propositions c'est de ne rien faire, avec l'islam radical.
Il y a une différence, c'est que on écoute Elisabeth Lévy, elle nous parle d'islam radical, Patrick Vignal nous parle de fous déjà, Elisabeth Lévy,
Il y a une différence sémantique là-dessus. Pardon, juste, avant de faire des propositions, ce qui n'est d'ailleurs pas mon métier, excusez-moi, moi je commente, et c'est un droit libre dans ce pays de commenter, mais il me semble qu'avant de faire des propositions, il faut faire un diagnostic. Or, ce diagnostic, votre majorité l'a fait il y a plusieurs mois, à chaque fois qu'il y a un gros attentat, et puis après, hop, plusieurs mois après, surtout ne pas prononcer le mot islam, parce qu'on va stigmatiser. Mais vous ne réglerez jamais un problème dont vous niez l'existence, monsieur le député. Député. Jamais.
Oui, Patrick.
En fait, je suis désolé, madame. Le vrai débat, c'est cette violence qui est insupportable. Moi, je n'ai pas de souci avec l'islam. J'ai un souci avec l'islamisme. Ce n'est pas pareil. Quand vous avez un fou qui vient avec un couteau dans une gare, je suis désolé, il n'est pas organisé. On a eu souvenir des attentats où il y avait des gens organisés. Al-Qaïda, là, c'était organisé.
Donc
là,
des fous, c'est un hasard.
Chère madame, dans la rue, des fous, il y en a tout le temps. Je ne sais pas si sa cause, c'était quelqu'un qui était à la cause islamiste, je ne sais pas, et vous non plus d'ailleurs. Moi, ce que je sais juste, c'est qu'on a durci la loi, on a augmenté les policiers, les renseignements généraux, mais moi, je ne vends pas du vent, on ne sera jamais à l'abri de fous qui soient capables de décapiter des gens ou capables d'attaquer des gens, y compris des policiers,
donc,
des gendarmes ou des instituteurs. Voilà.
Donc,
et ça, c'est une vraie parole, madame, je suis désolé de vous le dire.
Pour rien. Ben à ce moment-là, moi, j'ai beaucoup de mal à vous comprendre, parce que il fallait voter une loi sur la psychiatrie, il fallait pas voter une loi sur le séparatisme islamiste.
Mais madame,
excusez-moi,
ça n'existe pas une loi sur la psychiatrie.
Juste...
Moi, je vous dis juste qu'il faut qu'on mette plus de moyens. Il y a un tas de gens dans la rue qui devraient ne pas être dans la rue. Mais... La réflexion entre la prison et l'hôpital psy, c'est vrai que pour les Français, quand quelqu'un fait un acte très très dur, on ne comprend pas qu'il soit en psy et pas en prison.
Et
le
quand
résultat,
quelqu'un
c'est comment on va changer la société.
Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est de la folie. Mais est-ce que vous vous rendez compte de
Mais madame, je
vous
ai pas dit qu'il y avait... Je confonds
député...
la différence entre l'islam et l'islamisme.
Non,
ce
mais
n'est
moi,
pas
j'ai
pareil,
parlé
madame.
De certaines expressions de l'islam et, excusez-moi, j'ai quand même le choix de mes termes. Moi, je parle de certaines expressions de l'islam. Je ne crois pas qu'il y ait une rupture nette et je pense qu'il y a un continuum, si vous voulez, il y a un continuum du séparatisme et entre des gens qui sont parfaitement bien intégrés, qui sont culturellement parfaitement français et de l'autre côté, des gens qui ne le sont pas du tout.
Mais madame,
après,
on est d'accord sur ce sujet-là.
Mais non, mais quand quelqu'un crie « Allah ou Akbar » et sort un couteau, vous nous expliquez que c'est la folie le problème. Est-ce
mais
que
je vous
rendez compte,
on aura compris.
Est-ce
Elisabeth
que vous vous rendez
Lévy,
compte,
terminé,
monsieur le député, terminé, une Elisabeth question Lévy. Est-ce que vous vous rendez compte de l'effet que vous produisez sur les gens qui vous écoutent? Mais vous êtes en train de rendre les gens dingues. Vous avez un type qui sort un couteau en criant « Allah ou Akbar » et vous nous dites « C'est la folie ». Excusez-moi, mais
madame... Après, on verra ce que dit l'enquête, parce que là, il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris.
Mais de toute façon, même pour prendre un camion et rouler sur des gens, il faut être un peu dingue. Mais si c'était un problème de folie, je veux dire, à ce moment-là, c'est pas la peine de voter des lois. Donc on n'a pas de problème spécifique.
Mais je ne vous comprends pas, madame. Là, et bien sûr qu'il faut voter des lois pour ces gens, il faut les enfermer. Ou les internés, ouais. Les deux.
En tout cas, on aura compris la différence entre vous
d'accord.
Deux. Voilà, d'un côté, Patrick Vignal qui parle de la question de la folie, comment on gère justement la folie, et de l'autre, comment on gère l'islam radical pour Elisabeth Lévy. En tout cas, je vous le disais, hein, l'homme justement a été blessé, hein, et est blessé sérieusement selon des policiers, c'est par des agents de la sûreté ferroviaire qui ont tiré sur lui après qu'il l'ait menacé en criant donc à la Akbar, vous l'aurez compris. Homme sérieusement blessé qui a été pris en charge du côté des secours. Une enquête a été ouverte donc par le parquet de Paris. On en parlera davantage, bien sûr, déjà dans le flash dans quelques instants avec Arthur Delaborde et puis tout au long de cette journée sur Sud Radio. Allez, on revient dans un instant, on continue le débat. On verra si c'est moins mouvementé ou pas sur la question des Républicains, bien sûr, avec le jour J pour le dépôt des parrainages. Et puis on reviendra aussi sur la COP26, bien entendu. Et puis vous nous appelez 0826 300 300 si vous voulez, bien sûr, être avec nous à l'antenne. Vous êtes les bienvenus.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
9h04 sur Sud Radio, c'est la suite des grands débats du matin avec nos invités. Et dans quelques instants, on parlera du rapport Sauvé, le rapport Sauvé qui a été rendu public et il sera au cœur de la conférence des évêques de France à Lourdes. Mais tout de suite, le sujet, les Républicains. C'est aujourd'hui la clôture du dépôt des 250 parrainages pour les candidats à l'investiture LR. L'instance de contrôle arrêtera le 4 novembre la liste définitive des candidats. Le vote des militants aura ensuite lieu à partir du 1er décembre et les résultats du Congrès seront annoncés le samedi 4 décembre. Un agenda très chargé pour les LR. Pour parler de cette actualité politique, notre éditorialiste Elisabeth Lévy, rebonjour, et notre invité Patrick Vignal, député LAREM de l'Hérault. Rebonjour.
Oui, qui sont toujours avec nous, puis avec vous, hein, 0826 300 300, si vous voulez prendre la parole, vous êtes bien sûr les bienvenus, comme toujours sur Sud Radio. C'est sur vous, bien sûr, avec effectivement cette question. Alors les Républicains, on avait, il y a une petite heure maintenant, Denis Père, qui est l'un des six candidats, sans doute le moins connu, hein, de cette investiture LR pour la prochaine présidentielle, qui disait lui qu'il n'y avait pas de démocratie chez les Républicains. C'est ce qu'il affirmait tout à l'heure sur Sud Radio. Elisabeth Lévy, c'est l'impression que ça vous donne finalement avec les têtes d'affiche qu'on retrouve, Valérie Pécresse avec Xavier Bertrand, Michel Barnier.
Non mais moi, si vous voulez, je pense qu'un parti politique devrait être capable d'avoir des instances qui désignent un candidat et pas, si vous voulez, de chercher des systèmes pour faire genre on est démocratique. Si vous voulez, je ne crois pas que ça fonctionne. Effectivement, c'est pas l'élection présidentielle. Si les partis avaient des idées, ils auraient des programmes et ils auraient derrière des candidats pour les incarner. Si vous voulez, demander aux électeurs ou aux militants de décider qui va représenter le parti, ça prouve un peu, pardonnez-moi l'expression, qu'ils sont à la ramasse. Donc bon, oui, si vous voulez, c'est toujours la même histoire, on fait semblant, il y a des petits candidats, je dis ça sans le moindre mépris, ça me dérange pas du tout qu'il y ait des candidatures de témoignages, mais ne nous racontons pas d'histoire, si vous voulez, c'est comme à l'élection présidentielle, vous allez avoir 25 candidats, il y en aura 4 ou 5 qui seront vraiment dans la course. Bon. C'est un peu du cirque tout ça.
Patrick Vignal, du cirque ou pas, vous du côté de la République en marche, c'est plutôt simple, il y a pas eu souci là à gérer.
A priori, je pense qu'il y aura en tout cas, voilà. Un seul candidat, à part que vous soyez candidat vous-même, non?
Non, pas non, sûrement pas. Non, mais c'est vrai que du côté de la République en marche, en tout cas, pour l'instant, cette question ne se pose pas. Et c'est vrai que ça simplifie quand même plutôt la vie quand on voit comment ça se passe ailleurs.
Vous savez, moi, je suis inquiet pour la démocratie. Le dernier sondage, 58% des Français iraient voter la présidentielle, donc 40% n'iraient pas. Et dans les 58%, 40% qui disent qu'on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, la classe politique, pour en arriver à ce point-là? Après, au niveau des LR, a priori, il y a deux choix. Là. Il y a ou la fidélité, et c'est Michel Barnier qui n'a jamais quitté son parti, fait de militant. Et moi, je suis désolé, mais je le regrette d'ailleurs au niveau du PS, moi qui viens du PS, c'est quand même bien d'avoir des militants, c'est bien d'aller sur les marchés, c'était bien d'aller afficher, c'était bien de s'empailler avec des gens sur le terrain, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc il y a la fidélité Michel Barnier, et puis il y a peut-être celui qui pourrait aller le plus loin possible, c'est Xavier Bertrand. Et donc les militants devront trancher, mais je voudrais vous rappeler 2011, François Hollande, primaires qui ont été dures, mais qui ont rassemblé. François Fillon, s'il n'y a pas le phénomène de Pénélope, il serait président de la République. Donc, je pense que les partis ont une essence à avoir. Après, est-ce que les programmes sont importants? Je rejoindrai votre intervenante. Je pense qu'il y a 2-3 axes forts. Les programmes à 400 pages, les gens ne les regardent pas. Donc, c'est une rencontre, un homme, une femme, soutenue par un parti, d'abord financièrement, et puis il faut de l'humain pour aller faire les campagnes. Il faut aller faire du porte-à-porte, parce que les Français sont désenchantés de la politique, et il faut aller à leur rencontre.
Elisabeth Lévy, il y a aussi une question qui se pose déjà pour ces candidats à l'investiture, c'est comment faire face à l'ascension d'Éric Zemmour. Ça aussi, c'est une question qui se pose, au-delà de la question de la démocratie, du peuple, d'une certaine façon. Il y a aussi cette question-là, du face-à-face avec Éric Zemmour.
Ouais. Alors deux choses, d'abord, peut-être j'aimerais bien revenir après, j'ai été très impressionné par le chiffre qu'a donné monsieur le député, je n'avais pas vu ce sondage, 58% de gens qui sont sûrs d'aller voter à la présidentielle, ça effectivement c'est très inquiétant, en tous les cas, ça signifie quelque chose. Donc ça, il me semble que c'est un chiffre sur lequel on devrait méditer tous. Votre question, c'était, pardon, Éric Zemmour. Non mais une présidentielle, une élection, ça devrait être une bataille d'idées. Mais pour mener la bataille des idées, faut être deux. Enfin, faut être au moins deux, je dirais. Ouais. Or, que voit-on face à Éric Zemmour? Des criailleries, de l'indignation, des insultes, il est négationniste, il est pétainiste. Alors, encore une fois, moi j'ai lu attentivement ce qu'Éric Zemmour écrit sur Pétain. On a d'ailleurs interviewé un des historiens qui cite dans le prochain numéro de Causeur. il ne réhabilite pas Pétain, ça n'est pas vrai. On peut parfaitement contester ses propos, mais si vous voulez, le mensonge et l'invective face à quelqu'un qui met des idées sur la table et qui répond, qui apporte peut-être une mauvaise réponse, mais il ne dit pas qu'il n'y a pas de question. Quand les Français ont une angoisse existentielle, comme beaucoup de Français, pardon, pas tous, ressentent une angoisse de disparition collective, je pense, si vous voulez, que les autres candidats feraient mieux d'y répondre. On disait, vous savez, Laurent Fabius disait de Le Pen, bonne question, mauvaise réponse, et maintenant ça, on dit il n'y a pas de question. Eh bien non, ça ne va pas marcher comme ça. Moi je crois aux idées, et je crois que c'est ça la clé du succès relatif, hein, en tous les cas de l'ascension d'Éric Zemmour, c'est qu'il met des idées sur la table.
Vous êtes d'accord avec, avec ça, Patrick Vignal ?
Mais je suis en partie d'accord avec Mme Lévy, c'est-à-dire en fait il y a deux débats là. Je pense qu'il faut qu'on arrête de stigmatiser Éric Zemmour. C'est pas la peine de faire des manifestations dans ces meetings parce qu'on le renforce et on le fait monter. Le vrai débat, c'est qu'est-ce qu'on va proposer aux Français pour 2022. Donc c'est vrai que c'est toujours ce vrai problème. Après, il n'est pas candidat, je pense qu'il travaille intelligemment sa communication. On va rentrer dans le vrai débat. Le chômage, l'insécurité, la justice, la place de l'hôpital, c'est cela qu'attendent les Français. Mais vous savez, moi je suis assez inquiet, et puis des fois je me demande, est-ce qu'on est là pour changer le monde ou on est là justement pour juste être des têtes de gondole au supermarché ? Vous avez quand même vu que tous les candidats proposent de raser gratuit. On baisse les impôts, on double le salaire des enseignants. Enfin, franchement, moi le premier, je me pose la question de me dire, mais comment on est encore crédible dès qu'on arrive aux élections, tout le monde sort le chéquier, on a vraiment l'impression que c'est des têtes de gondole au supermarché.
Alors, avant d'accueillir un auditeur qui sera avec nous dans un instant. Sur Sud Radio. Alors, très rapidement, Elisabeth Lévy, parce que je voudrais qu'on parle aussi, parce que sur les réseaux sociaux, on a été interpellé par un auditeur, c'était sur Twitter, qui disait qu'il faudrait qu'on parle aussi de la commission mixte paritaire du côté de l'Assemblée nationale aujourd'hui, sur la question de l'extension du pass sanitaire. Voilà. Elisabeth Lévy.
D'accord, mais justement, moi, ce qui me fascine, c'est que vous me répondez en disant il y a les vrais débats, les débats acceptables, on a le droit d'avoir peur du chômage, mais on n'a pas le droit d'avoir peur de la fragmentation culturelle. Ça, c'est pas un bon débat. L'identité, vous avez décidé que c'était pas un bon débat, donc fermez le banc. C'est incroyable. Vous pouvez donner votre réponse, monsieur le député, ça vous avez... Et on l'attend d'ailleurs avec intérêt, vraiment. Mais nous dire que ces questions identitaires ne sont pas des vrais débats, mais vous allez...
C'est incroyable, madame, vous allez jamais au bistrot. Pourquoi vous êtes toujours...
Si, vous avez dit les vrais débats, c'est le chômage. Attendez,
excusez-moi. Mais entre autres, madame, on n'a pas le temps de
vous avez dit
que je vous explique
débats,
le programme d'Emmanuel Macron,
qui intéresse
que vous l'envoyez, si vous voulez.
Non mais vous nous avez répondu, excusez-moi, je vous ai écouté, donc vous avez dit les vrais débats,
ceux qui intéressent les Français. On vous a entendu aussi, Elisabeth Lévy.
Voilà.
On poursuit juste avec cette commission mixte paritaire, Patrick Vignal, sur l'extension du pass sanitaire. A priori, ça ne devrait rien donner aujourd'hui, on attend plutôt la fin de semaine avec le dernier mot de l'Assemblée nationale. Le Sénat vous a posé pas mal de soucis sur cette question-là, sur l'extension du pass sanitaire jusqu'à l'été. C'est vraiment nécessaire ?
Vous savez, le vrai débat, il est là. Bon, déjà, j'espère quand même pour tout le monde, pour l'économie, pour la vie sociale, qu'on est au bout de cette épidémie, que ça va pas redémarrer. On part de cinquième vague.
Souhaite, hein.
Voilà, franchement, ça, j'ai pas de soucis. Nous, on propose d'avoir un pass sanitaire qui aille jusqu'à juin 2022. Les sénateurs proposent qu'il s'arrête fin février. Très franchement, je souhaite que la commission mixte paritaire se mette d'accord. Vous savez, on a autre chose à faire. Je pense qu'on a des gens, on a une France au bord du burn-out.
Donc pour vous, peu importe, février ou l'été ?
Oui, très franchement, je pense qu'il faut qu'il y ait un accord intelligent entre le Sénat et l'Assemblée nationale.
Elisabeth Lévy, en quelques mots.
Moi, je suis quand même un peu choqué de cette extension du pass sanitaire, bien que n'étant ni anti-vax. Et moi, je suis pour qu'on ait le moins de mesures contraignantes et liberticide possible, je ne dis pas qu'il ne doit pas y en avoir, mais je voudrais juste vous dire quelque chose. Je suis arrivé à Roissy hier à 21h d'Israël, et il n'y avait pas l'ombre, mais pas l'ombre, d'un demi-contrôle ou de quoi que ce soit, si vous voulez. Alors, moi, je veux bien qu'on enquiquine les Français, qu'on transforme tous les garçons de café en contrôleurs sanitaires, mais est-ce qu'on peut pas, une fois pour toutes, contrôler un peu plus nos frontières ? Moi, quand je suis parti en Israël, je peux vous dire que pour y aller, Et j'ai trouvé ça complètement délirant. Je me suis même dit, finalement, l'administration française, finalement, a du bon. Parce que l'administration israélienne me paraissait complètement folle avec les papiers qu'elle demandait. Mais en tous les cas, vous n'y rentrez pas comme ça. En France, c'est vraiment, on entre comme dans un moulin.
Allez, autre sujet. On a un auditeur qui nous appelle au standard 0826 300 300, qui est sur Sud Radio avec nous.
C'est Frédéric de Paris qui voulait réagir. On vous accueille. Bonjour Frédéric.
Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Alors, bonjour, moi je réagissais sur le tabac.
Ah, ah bah vous avez le droit.
Vous avez
le droit. Le mois sans
raison,
tabac qui
bien.
A commencé hier, effectivement.
Voilà, sur le, voilà, sur le. Oui.
Ouais, on vous écoute.
On vous écoute.
Oui, moi je voulais réagir là-dessus. Bon, j'ai entendu que certains proposent de faire des zones réservées aux fumeurs.
La Ligue contre le cancer. De l'étendre justement autour des écoles.
L'interdiction. Voilà. Des zones interdites à la cigarette.
Et,
oui.
Et des zones interdites à la cigarette. Bon, je dis pourquoi pas. Moi, je suis un ancien grand fumeur. J'ai commencé à fumer quand je suis rentré à l'armée dans les années 70, où on nous octroyait très généreusement 16 cartouches de troupes, 16 paquets pardon, par mois de troupes, pour ceux qui s'en souviennent, ce qui m'a conduit à fumer. À l'époque, c'était généreux comme geste, et tout le monde fumait. Et on était dans les années 70, dans une époque où il n'y avait pas tous les interdits qui ont commencé à arriver dans les années 80 et 90. Donc je me suis mis à fumer, j'ai fumé beaucoup. J'avais un travail difficile, stressant, j'ai fumé beaucoup, jusqu'à 4 paquets par jour. Et un jour, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête. Je savais que ça n'allait plus, j'ai arrêté. Alors depuis, j'ai eu des accidents cardiaques, on me soigne pour ça, on me soigne pour les poumons, etc. Donc pour mes enfants, ça leur a fait peur, donc ils ne fument pas du tout. Mais plutôt que de rentrer tout le temps dans l'interdiction, le contrôle, j'aurais aimé qu'on dépense énormément d'argent, plus d'argent pour la prévention, pour l'éducation, pour convaincre. Parce que quand j'avais 18-20 ans, il fallait pas me parler de la mort. Déjà, on ne nous disait pas que la cigarette tuait à l'époque. On nous disait que ça fait bien de fumer, quasiment. Mais quand on est jeune, la mort, elle est loin. La mort, elle est très abstraite. Ça n'a rien de concret. On n'a qu'une envie. Nous, on a la vie devant nous. Quand on est jeune, on a envie d'y aller. On a envie d'avancer. On a envie de découvrir. On n'a pas envie qu'on nous mette des interdits tous les 4 matins. Vous n'avez pas le droit de ceci, vous n'avez pas le droit de cela, vous n'avez pas le droit de ça non plus, et de ça encore moins. Je crois qu'on devrait plus focaliser, je ne sais pas, ce n'est pas notre mentalité, j'en sais rien. Est-ce que le fait qu'on est latin, construction judéo-chrétienne, qu'on est dans l'interdit, on n'éduque pas assez, on n'essaye pas de convaincre. Convaincre les gens.
Justement, on va faire réagir Patrick Vignal là-dessus, sur ce volet prévention qui est important, effectivement.
Mais je crois que Frédéric a raison. C'est vrai qu'en plus, cette période est difficile avec le Covid, on a mis quand même des obligations. Isabelle y parlait du pass sanitaire, du contrôle, de problèmes de liberté. Et pour la cigarette, c'est comme pour l'alcool pour les jeunes. Souvent, dans les fêtes, moi, dans ma circonscription, les gamins se mettent dans la voiture, se font une bouteille de vodka ou de whisky. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette idée de prévention. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler sur les collèges, sur les lycées. Rajoutons le cannabis, rajoutons le protoxyde d'azote,
où on
voit les gamins. Moi, je vois dans ma ville où c'est des grosses bonbonnes ou à 1h du matin. Mais ça dit quoi tout ça? Ça dit quand même une addiction.
Pour faire de la chantilly.
Ça dit oui, c'est ça. Oui. Ouais. Si vous saviez, Elisabeth, les bombes maintenant, où les mecs se mettent d'équerre complet, ou après c'est des accidents, ou après. On est en train, en fait.
Sur les plages le matin.
Ah oui, mais c'est énorme. Chez nous, les capsules, mais il y en a tous les jours.
À récupérer,
à ramasser. Comme dit Frédéric, il y a un vrai débat sur l'éducation, sur le rapport à la santé, le rapport au corps, l'activité physique, l'activité culturelle. Ça, c'est aussi un projet de société.
Être
et c'est vrai,
sans
que
addiction.
Faire qu'interdire,
que,
ça
que
ne
que
marche pas non
plus.
Ouais. Surtout aux gamins à 15 ans, quand on l'interdit, ça marche pas.
Très rapidement, Elisabeth Lévy, pour conclure.
Pardon, très vite, vous dites être heureux sans addiction, mais évidemment, c'est très facile, mais je crois que beaucoup de médecins pensent qu'il y a des personnalités, des chimies en quelque sorte addictives, et que, si vous voulez, tout ça, c'est un slogan. La question, c'est effectivement, il faut une protection.
On partira pas en vacances tous les deux, décidément.
Voilà, il faut une protection. Non, mais je dis pas que c'est pas bien. Je dis simplement que c'est, si vous voulez, il y a beaucoup de médecins qui considèrent que l'addiction relève d'une pathologie. Donc dire être heureux sans addiction, c'est pas que c'est pas un bon but. Je dis que c'est un slogan parce
c'est
que
aussi
ça
dans l'éducation,
pas comme ça.
Élever ses enfants.
Non,
aussi
je ne crois pas que ce soit juste dans l'éducation. Excusez-moi, c'est un peu facile de dire ça. Je ne crois pas. Non, je crois que l'addictologie a fait un peu de progrès et que il y a d'autres choses que l'éducation qui jouent dedans. Simplement, juste pour les enfants. d'accord, là, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut une protection. Notamment contre le tabac, mais je suis très sensible à ce que vous avez dit sur l'alcool. Simplement, ayons en tête, rappelons-nous que nous avons été jeunes, et que quand on vous interdit quelque chose, si vous voulez, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode pour vous le faire, pour vous en dégoûter, c'est tout. J'ai pas de, alors là, j'ai zéro solution à ça, mais l'interdit partout. Ouais. Je suis pas sûr que ça marche.
On aura compris. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Merci,
merci à vous deux.
Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault. Et puis, on vous offre, sachez-le, un séjour ensemble. Voilà. Comme vous entendez très, très bien, tous les deux. Mais vous pourrez partir en vacances tous
sans
les deux.
Sans cigarette. Radio. Je suis et avec de l'alcool.
Et ben bon.
On voit les photos
sur
Et du sport.
Beaucoup.
Et
merci
du
à
sport.
Vous. Merci à vous deux, bien sûr. Et puis, merci aussi à Frédéric qui nous appelait au 0826 300 300 sur Sud Radio.
Merci. Dans quelques minutes, c'est la suite
merci.
Du grand débat du matin avec un nouvel invité pour parler du rapport de Jean-Marc Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. À tout de suite, restez avec nous. Il est 9h20 sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
9h23 sur Sud Radio et on continue les grands débats du matin. Sur les abus sexuels dans l'Église, le 5 octobre dernier, le rapport Sauvé a été rendu public et il sera au cœur de la conférence des évêques de France à Lourdes qui débute aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Jean de Saint-Chéron, directeur de cabinet du recteur de l'Institut catholique de Paris, auteur des Bons chrétiens. Il est également l'auteur de la tribune « L'Église a moins besoin de réformateurs que de saint » dans le Figaro du 1er novembre. Bonjour.
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 Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On va revenir sur la tribune que vous avez publiée donc hier dans le Figaro avec cette maxime qui débute justement, qui commence vos propos. Quand on a bien travaillé, il est bon de se reposer. Vous pensez que l'Église a bien travaillé en commandant, en publiant aussi un rapport Sauvé sur les abus sexuels ou est-ce qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour l'Église?
La question est double, mais alors, ce qui est délicat quand on parle du christianisme, c'est que soit on choisit d'en parler simplement selon un prisme économique et social et politique, je dirais, de l'économie réelle dont nous sommes tous capables de rendre compte scientifiquement, ou alors on est capable d'intégrer dans le débat quelque chose de surnaturel, ce qui était un peu le propos de ma tribune, puisque c'est une tribune sur la sainteté. Donc il y a quelque chose forcément qui nous échappe. Et alors, quand on a bien travaillé, il est bon de se reposer. Je faisais évidemment référence au saint que l'Église fête le 1er novembre, même si plus grand monde ne connaît le sens de cette fête, qui sont les saints du ciel. En réalité, la théologie catholique nous apprend que les saints n'existent pas sur la terre, parce qu'on est tous pécheurs, mais que dans le ciel, une fois qu'on a été purifié, bref, et qu'on a bien travaillé, c'est-à-dire qu'on a essayé d'aimer, même si c'est difficile, on est dans la joie de Dieu pour toujours. Voilà ce que dit la théologie de l'Église. Alors, pour reprendre votre question et tenter d'y répondre, en tout cas, je pense qu'on peut se réjouir de l'effort de vérité qui a été fait par l'Église en commandant ce rapport. Il n'est jamais agréable de demander à faire un travail dont on peut prévoir, tout de même, je pense que l'Église n'était pas aveugle, l'Église de France n'était pas aveugle en le faisant, dont on peut prévoir qu'il va salir notre image médiatique. On vit quand même s'il y a cette dimension de surnaturel qui normalement est au cœur du christianisme, on est aussi une religion extrêmement incarnée, extrêmement réaliste, et on a conscience du fait que pour toucher les hommes, il faut d'une certaine manière témoigner par nos actes de ce que nous proclamons. Donc évidemment, il y a à la fois cette angoisse de renvoyer de l'Église une mauvaise image, ce qui a peut-être présidé, et même sans doute, à l'omerta, très regrettable pendant des décennies dans l'Église de France autour de ce sujet. D'ailleurs, aussi bien du côté des clercs que des paroissiens, le rapport pointe bien le fait que les familles des victimes elles-mêmes, mais c'est effrayant quand on y pense, mais ne voulaient pas rentrer dans ce jeu qui aurait sali l'image de monsieur le curé ou qui aurait amoindri la confiance des uns et des autres.
Ou n'osaient pas l'imaginer.
Comment ?
N'osait pas l'imaginer d'une certaine façon aussi.
Ne voulait pas y croire.
Ou alors ne voulait pas y croire. Mais hélas, on sait qu'il y a aussi des cas de parents ou d'amis qui étaient, qui avaient un degré de certitude quand même quant à l'horreur des faits produits et qui préféraient mettre la poussière sous le tapis ou essayer de éventuellement de s'arranger avec la hiérarchie de l'Église en touchant un mot discret pour que le prêtre soit déplacé, comme on a vu, il y a eu des prêtres qui ont été déplacés, oui, etc. Donc ces logiques sont évidemment abominables, mais ce dont j'ai essayé de rendre compte dans ma tribune d'hier dont vous parliez, et puis dans mon livre là dont vous parliez à l'ouverture, qui s'appelle « Les bons chrétiens », qui est un titre évidemment un peu ironique, parce que qui peut se prétendre bon chrétien ? Personne. Mais ce que j'ai essayé de pointer, c'est que cela n'est pas le christianisme. C'est-à-dire que ce qui est fait au nom du Christ, parce qu'hélas, il y a aussi beaucoup d'abus qui ont été faits au nom du Christ, hein, c'est-à-dire qu'il y a des clercs qui ont profité de la foi très sincère et très pure de certains, sur des enfants comme sur des adultes d'ailleurs, pour les entraîner à des actes qui n'étaient là en réalité que pour flatter la recherche de plaisir du clerc intéressé. Donc c'est évidemment abominable, mais ça n'est pas le christianisme. Et en fait, c'est même l'inverse du christianisme.
Et c'est de la manipulation mentale. Hein.
Absolument. Mais je m'appuie beaucoup dans cette tribune sur une formule de Bernanos que j'aime énormément, qui est « Notre Église est l'Église des saints ». Alors Bernanos, vous voyez, c'est il y a un siècle, hein, mais déjà, il avait conscience du fait que quand il y avait de grands débats autour de l'Église et autour en particulier du caractère peu reluisant de l'Église temporelle visible en certains de ses aspects, hein, pas tous, parce qu'il y a aussi des choses absolument sublimes qui sont faites au nom de l'Église et dont on peut témoigner chaque jour. Enfin, le service des pauvres, pour prendre que cet exemple, dans l'Église catholique, c'est quand même quelque chose d'absolument gigantesque et qui recouvre toute la surface du globe et qui essaye de témoigner de l'amour de Dieu pour les hommes. Mais Bernanos avait quand même bien saisi le fait que il fallait sans cesse revenir à la source radicale du christianisme.
C'est un terme qui est intéressant d'ailleurs, ce terme de radicalité que vous utilisez dans cette tribune, parce que c'est vrai que quand on l'associe à la religion en général en ce moment, ça ne va pas du tout bien ensemble. Et c'est vrai qu'on a du mal à l'envisager sur la religion catholique, ce terme de cette radicalité-là. Pourtant, vous le dites, hein, c'est très présent aux origines du christianisme.
Alors non seulement c'est présent aux origines du christianisme, mais c'est présent, en fait, c'est ce qui traverse toute l'Église pour montrer quel est le visage de Dieu. En fait, la radicalité du christianisme, c'est la radicalité de l'amour. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, tous les saints que nous célébrons le 1er novembre, que nous célébrions hier, mais que nous célébrons en réalité tous les jours de l'année, connus ou inconnus, sont des radicalités de l'amour au sens où ils ont vécu l'amour de l'autre jusqu'au bout, de manière surnaturelle. Henri Bergson, vous voyez, qui n'était pas chrétien, hein, pourtant, dans les années, au tout début des années 30, il publie un livre qui s'appelle « Les deux sources de la morale et de la religion », et il rend compte du fait qu'il est stupéfait que la mystique chrétienne, que les saints du christianisme, soient allés aussi loin dans l'amour de l'autre, et en particulier dans l'amour des ennemis. Il dit « Je veux bien que la religion, ce soit quelque chose qui explique nos rapports sociaux, qui soit venu du fait qu'on ait peur de mourir, alors on s'invente un au-delà, ou alors du fait qu'on ait besoin d'être dans des sociétés où on s'aime tous les uns les autres pour pas s'égorger chaque matin et s'entrevoler nos poules et nos récoltes de blé. » Mais il dit « Mais en revanche, il y a un truc qui est inexplicable dans le christianisme, c'est qu'on se met à aimer les ennemis, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors de la cité, ceux qui nous haïssent. » Et il dit, là, il y a une... Alors, j'utilise ce mot de radicalité, radicalisation, parce que c'est quand même ça. Ils ont un amour jusqu'au boutiste. Et c'est ça, le christianisme. Vous voyez, là, je vous parle depuis le Pas-de-Calais, la Côte d'Opale, un très beau pays, mais pays d'un grand saint du XVIIIe siècle, dont je parle dans mon livre, qui s'appelait Saint-Benoît-Joseph Labre, qui est né dans le petit village d'Amet. Ce type, au milieu du XVIIIe siècle, il prend le monde et l'Église à contre-pied absolu. Le XVIIIe siècle, c'est le grand siècle de la mondanité, en particulier dans l'Église, hein, on peut le regretter. Il y a les abbés de cour, les perruques poudrées, les partous du cardinal de Bernis, etc., avec Casanova. Et il y a ce saint Benoît-Joseph Labre, qui est un petit pouilleux, qui marche en guenille sur les routes de France, d'Italie, d'Allemagne, qui annonce l'amour de Dieu, qui sert les pauvres, qui se dépouille de tout ce qu'il a, et qui finit par mourir à une trentaine d'années sur les marches d'une église à Rome. Et c'est lui que l'Église canonise. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est que l'Église, elle n'a pas canonisé les abbés de cour.
Ouais,
elle n'a pas canonisé le cardinal de Bernis.
Restez bien avec nous, justement, Jean Saint-Chéron. On continue cette discussion, notamment sur... on voit hein, l'Église temporelle d'un côté, spirituelle de l'autre. Est-ce qu'on se voile la face aussi par rapport à la réalité aussi, qui est là, forcément, bien sûr. On en parle dans un instant avec vous. On vous retrouve, bien sûr, tout de suite sur Sud Radio, 9h32. Restez bien avec nous.
Merci beaucoup.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
9h35 sur Sud Radio, on continue les grands débats du matin, et notamment sur le rapport Sauvé qui a été rendu public. Il sera au cœur de la conférence des évêques de France à Lourdes qui débute aujourd'hui. Ce rapport qui parle des abus sexuels dans l'Église. Pour en parler, on continue avec Jean de Saint-Chéron, directeur de cabinet du recteur de l'Institut catholique de Paris, auteur des Bons chrétiens aux éditions Salvator.
Jean de Saint-Chéron, vous en attendez d'ailleurs quelque chose de cette journée à Lourdes, côté des évêques de France?
Forcément, on en attend tous quelque chose, et j'espère que même, les citoyens français qui ne se sentent pas membres de l'Église catholique en attendent quelque chose. Quand un effort de vérité est consenti par une institution quand même encore aujourd'hui aussi importante que l'est l'Église catholique dans notre pays, hein, même s'il n'y a plus beaucoup de catholiques pratiquants, hein, je le déplore d'ailleurs, mais...
Un Français évidemment sur deux qui ne croit plus en Dieu, 66% des mineurs qui n'ont pas confiance en l'Église.
Ah non, mais c'est des chiffres absolument terrifiants. Et puis, vous pouvez ajouter à cela les chiffres du décrochage incroyable de la pratique. C'est, en fait, d'un point de vue civilisationnel, on ne se rend pas compte qu'on a vécu depuis 40 ans un tournant qui transforme littéralement l'histoire sociale et politique de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a encore, avant la Première Guerre mondiale...
Vous parlez justement de l'Église spirituelle, mais est-ce que l'Église n'a pas intérêt justement à regarder ce qui se passe réellement, en tout cas dans le réel, et justement à mettre en place des réformes, vraiment, pour qu'on ait de nouveau confiance en elle? Parce que quand on parle de radicalité spirituelle, d'Église temporelle, c'est bien beau, effectivement, ça fait partie de cette religion-là, mais il y a aussi des décisions concrètes à prendre, forcément, pour éviter que des abus sexuels ne se reproduisent.
Mais je pense que c'est ce qu'elle essaye de faire. En tout cas, je l'espère profondément. Vous me demandiez, est-ce que vous en attendez quelque chose? Quand je dis l'Église n'a pas besoin tant de réformateurs que de saints, vous voyez bien que c'est une formule un peu provocatrice, mais que je poursuis dans ma tribune en disant, car en réalité, la sainteté est la seule réformatrice crédible. Qu'en fait, les saints, justement, sont des personnages à dimension extrêmement concrète. Regardez au Moyen-Âge, l'effort d'un saint François d'Assise qui retourne le visage de l'Église du XIIIe siècle. C'est très, très concret. C'est-à-dire qu'il va voir le pape, il va même voir le sultan en Égypte. Donc, il a même une démarche politique. C'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes, les saints, qui ont entrepris des réformes absolument colossales dans l'histoire de l'Église, concrètement. Mais ils l'ont fait dans le sens du plus grand amour, c'est ça la radicalité dont j'essaye de parler, et pas simplement, par exemple, dans une logique politique ou de communication pour que
vous mettez dedans, par exemple, justement,
l'image de l'Église, vous voyez.
La réforme sur la question du célibat des prêtres, sur le secret de la confession, pour vous, c'est des fausses réformes?
Alors, le célibat des prêtres, le rapport Sauvé, quand même, pointe le fait que on ne peut pas associer obligation de célibat des prêtres avec les actes pédophiles qui ont été commis. Pourquoi ? Hélas, en toute logique, je pourrais dire, parce que l'immense majorité des abus sexuels sur mineurs en France ont lieu dans les familles. Donc, si vous voulez, malheureusement, le rapport Sauvé lui-même dit le problème n'est sans doute pas là, etc. Et en tout cas, rien de psychologique ne permet de l'asseoir. D'ailleurs, ce serait quand même avoir une piètre image de l'homme que de penser que parce qu'un homme à 20 ans ou 25 ans ou 30 ans s'est engagé par amour de l'Église et de Dieu au célibat, il va nécessairement être attiré par les petits garçons du cathé.
C'est sûr que c'est bien plus complexe. Sur la question de la confession.
Évident.
Du secret de la confession.
Alors, sur la question de la confession...
Alors, il faut préciser pour nos auditeurs de Sud Radio, là, ça se joue, si ça doit jouer, c'est au niveau du Vatican. Ce n'est pas les évêques de France qui peuvent décider justement à ce niveau-là, c'est ça?
Absolument, ça c'est une question de discipline sacramentelle, comme on dit, discipline du sacrement. Alors, le seul truc, moi, que j'ai presque envie de vous demander, c'est le jour où on annonce qu'un prêtre qui reçoit en confession un aveu de crime qu'il faut aller dénoncer à la police... le jour où ça devient la règle, est-ce que les pécheurs auteurs de ces crimes vont continuer à aller les dire au confessionnal? À mon avis, c'est une réforme qui est morte dans l'œuf. C'est-à-dire que le lendemain même, en réalité, plus personne ne va confesser les crimes, parce que autant aller au commissariat direct, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne vois pas comment cette réforme-là, qui semble un truc colossal, pourrait porter du fruit à l'avenir. À mon avis, en fait, c'est une fausse proposition. Enfin, c'est une réforme qui contient en elle-même son échec. Tout ce qui est dit dans le rapport Sauvé, en revanche, sur les efforts qui doivent être faits en amont sur la vérité. Être capable de créer, en particulier dans les lieux où on forme les prêtres, dans les séminaires, des climats de confiance suffisants pour que... Parce que ça existe d'avoir des pulsions pédophiles. Hélas, on peut pas dire que ça sorte de nulle part. Créer un climat de confiance suffisant ou aussi créer une vigilance suffisante des formateurs pour qu'ils soient capables d'aller peut-être voir celui dont on se dit, ah, je sais pas quoi, enfin, c'est horrible parce qu'il faut pas non plus que ça crée un climat de suspicion, mais être capable de libérer la parole au point où ceux qui souffrent d'avoir ces pulsions-là, c'est capable d'aller dire à leur formateur, voilà, moi, je crois que je suis quand même attiré par des petits garçons et des petites filles, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fous. Et là, dans ce cas-là, ça me semble bon, une mesure hein, parmi d'autres, mais une mesure qui peut quand même essayer d'assainir le truc à la racine. Oui.
Et à noter, donc, pour le lire, le pape recevra, quant à lui, Jean-Marc Sauvé et les membres de la commission, le 9 décembre prochain. Voilà, rendez-vous aussi à noter. Merci beaucoup, Jean de Saint-Chéron. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes directeur cabinet, directeur de l'Institut catholique de Paris, auteur des Bons chrétiens aux éditions Salvator. Vous êtes également l'auteur de la tribune L'Église a moins besoin de réformateurs que de saints. C'était dans le Figaro d'hier. Merci à vous. Bonne journée.
Merci beaucoup. Restez avec nous pour suivre la suite de nos grands débats du matin avec un nouvel invité. Et juste après, ce sera la France à vos côtés. À tout de suite.
Et notre invité, on parle... Eh bien, forcément, c'est un peu ça a été le sujet de la nuit, finalement. Oui. Le fil rouge de la nuit, d'une certaine façon, avec cet affrontement qui se poursuit entre Paris et Londres sur la pêche. Ça fait suite, bien sûr, à la question du Brexit et Emmanuel Macron qui a décidé, finalement, de reporter les sanctions pour continuer les négociations avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. On est en ligne avec Thibaut Josse, coordinateur de l'association Pleine Mer. Bonjour.
Bonjour, Thibaut Josse.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, alors, sur cette décision, ce report finalement des sanctions qui était annoncé donc cette nuit à minuit du côté de Paris, du côté d'Emmanuel Macron, il y a déjà des conséquences finalement pour les pêcheurs dans votre région sur cette décision-là de report.
En fait, c'est une décision qui est reportée pour nous depuis 6 mois, voire un an. C'est-à-dire qu'en fait, les manques de licences, c'est pas depuis cette nuit, hein, ça fait quand même mois. Là, on a une annonce hier sur GRZ de réattribuer, je crois, 49 licences. Mmh. Sauf que les licences dans les 6-12 000 anglais pour les pêcheurs des Hauts-de-France, il n'y a aucune nouvelle là-dessus. Et donc, je pense qu'en fait, il joue un peu la montre en se disant que il va pas encore mettre les sanctions cette fois-ci et voir s'il relâche encore un petit peu de lest. Le problème, c'est qu'en fait, ça vient en compte-goutte, quoi. Et en attendant, les pêcheurs, ils peuvent
c'est
pas
pêcher. C'est le bout du tunnel qu'on ne voit jamais, quoi. Mmh.
Ouais, c'est ça exactement.
Vous avez pas l'impression justement d'être à vous entendre, c'est ça quoi, c'est vous êtes pris en otage quoi de ces tensions entre Paris et Londres à ce niveau-là.
En fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire, il y a deux choses, il y a deux sujets en fait dont on décrypte pas trop, mais déjà d'un point de vue administratif, les pêcheurs sont pas du tout responsables. C'est-à-dire que pour avoir des licences aujourd'hui, par exemple à Jersey, il faut prouver qu'on a des antériorités sur la zone de Jersey. C'est-à-dire que les pêcheurs doivent prouver qu'ils ont pêché historiquement dans cette zone-là. Le problème, c'est que c'est pas eux qui gèrent ces données-là, c'est l'administration française. Et il y a 6 mois, quand l'administration anglaise a demandé à l'administration française ces données-là, ils leur ont envoyé des données mais absolument risibles. C'est-à-dire qu'ils avaient pas de données, c'était pas bien enregistré, il n'y avait pas les bons papiers. Et donc forcément, l'administration anglaise a dit « Attendez, si vous n'êtes pas capable de nous montrer que vous pêchez là, on ne va pas vous donner des licences. » Donc ça, c'est le premier élément vraiment important qui montre que les pêcheurs sont pris en otage, mais pas de leur fait, en fait. Le problème, c'est les deux administrations.
Les deux administrations, c'est-à-dire que vous n'en voulez pas plus à la France qu'à la Grande-Bretagne. Pour vous, vous êtes au milieu et finalement sans solution.
Ah bah clairement, il faut pas faire un choix entre les deux. Et je dirais même en fait, il y a vraiment une mauvaise analyse sur le Brexit, un mauvais traitement médiatique dans le sens où les pêcheurs britanniques, ils ont voté à 92% pour le Brexit, et c'était le fameux take back control. En fait, ils voulaient le retour de leur quota. Ils voulaient récupérer la main sur leurs ressources. Très bien. Sauf qu'en fait, quand on regarde Jersey, Guernesey ou les licences françaises dans les 12 000, c'est peanuts par rapport à la quantité de ressources en Angleterre. Mais par contre, quand on observe du côté de l'industrie de la pêche néerlandaise, c'est une industrie qui détient un énorme pourcentage des quotas. Par exemple, juste un bateau néerlandais possède 23% des quotas anglais. Tous les quotas, confondus. Donc en fait, aujourd'hui, on est sur un traitement médiatique de « Oh, regardez, la France et l'Angleterre se disputent. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Qui a raison ?» Alors qu'en fait, les Néerlandais, eux, suite au Brexit, ça ne leur change absolument rien. Ils ont acheté des bateaux, ils possèdent les bateaux en Angleterre. Et donc, les pêcheurs anglais ne vont jamais récupérer leurs droits sur cette ressource-là. Donc ça, c'est vraiment important de le lire.
Thibaut Joas, pour conclure, si ça dure encore justement ces négociations, qu'on continue justement à être dans les discussions et qu'on n'arrive pas à trouver finalement un accord, ça veut dire quoi pour les Français aussi, eux-mêmes finalement, sur les conséquences qu'il peut y avoir pour eux?
Ah bah oui, je connais certains pêcheurs, certains bateaux. Par exemple, la pêche dans les eaux de Jersey, ça représente 90% de leur chiffre d'affaires. Ouais. Donc là, ça veut dire pour ces bateaux-là, revendre le bateau, soit une reconversion, soit qu'il fait. Mais c'est terrible, quoi. Ça veut dire perdre son métier, perdre son activité pour un problème géopolitique, quoi. Donc en fait, c'est ça, hein, les conséquences très concrètement. Après, pour d'autres bateaux, ça peut être des plus faibles pourcentages et donc des reports d'efforts. Mais ça sera des reports d'efforts dans des zones où il y a d'autres collègues et donc ça pourrait créer des phénomènes de surpêche localement. Donc c'est vraiment plein de questions. Hyper problématique pour les pêcheurs français. Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est un sujet complexe et compliqué. Merci de nous l'avoir rendu facile à comprendre d'une certaine façon. On vous souhaite surtout beaucoup de courage pour
merci
la suite,
beaucoup.
Thibaut Joas. Je rappelle, vous êtes coordinateur de l'association Pleine Mer. Merci à vous.
Merci Thibaut.
Je vous remercie. Bonne
Très
journée.
Bon début de journée à vous toutes et tous. À tout de suite avec la France à vos côtés dans quelques instants. Restez avec nous. Il est 9h46 sur Sud Radio.